Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 2, chapitre 10. Effort de Duprat pour obtenir la persécution et résistance de François Ier, 1527-1528. Louise de Savoie et Duprat, François Ier et le XVIe siècle, marché que le clergé propose, Marguerite encouragée, ses promenades à Fontainebleau, elle accouche à Pau, martyr de Delatour, la reine retourne en hâte à Paris, concile à Paris, Duprat sollicite le roi, concile dans le reste de la France, Duprat et le Parlement se réconcilient, le roi s'oppose à la persécution. Une femme régnait dans les conseils du roi. Disposée d'abord à se moquer des moines, elle s'était rangée depuis la défaite de Pavie du côté des prêtres. Au moment où la puissance royale recevait une si forte atteinte, elle avait vu que leur pouvoir demeurait et en avait fait ses auxiliaires. C'était la mère de François Ier, Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême, digne de précéder Catherine de Médicis. Femme habile, dame absolue en ses volontés, bonnes ou mauvaises, dit Pasquier, esprit fort qui pouvait étudier la nouvelle doctrine comme une curiosité mais qui la méprisait, femme galante sur laquelle Beaucaire, Brantôme et d'autres racontent maintes anecdotes scandaleuses, mère enthousiaste et absolue qui conserva toute sa vie un pouvoir presque souverain sur son fils, Louise avait sous la main deux armées dont elle disposait à son gré. L'une était composée de filles d'honneur, au moyen desquelles elle introduisait dans la cour de France la galanterie, le scandale, l'indécence même du langage. L'autre était formée d'hommes intelligents, rusés, sans religion, sans moralité, sans scrupules, à la tête desquels brillait Duprat. Celui-ci était le soutien sur lequel la Sorbonne croyait pouvoir compter. Entreprenant systématique, à la fois souple et ferme, servile et tyrannique, intrigant et débauché, souvent irrité, jamais découragé, très habile, scientifique et subtil, dit le bourgeois de Paris, l'un des plus pernicieux hommes qui fussent onques, dit un autre historien. Duprat vendait les offices, pressurait le peuple, et si on lui remontrait ses désordres, il faisait mettre les remontrants à la Bastille. Cet homme, archevêque de Sens, qui était alors cardinal, et aspirait à devenir légat à Latéré, devenu prince de l'Église romaine, mettait à son service son influence, sa volonté de faire et même sa cruauté. Mais rien ne pouvait se faire sans le roi. Louise de Savoie et le cardinal, connaissant sa légèreté, son amour des plaisirs et sachant qu'en fait de religion, il n'aimait que les pompes et les cérémonies, espéraient l'entraîner facilement à combattre la réforme. Pourtant, François hésitait, il résistait même. Il prétendait avoir un grand goût pour les lettres. Or, l'Évangile, à ses yeux, en faisait partie. Il cédait volontiers à sa sœur, or elle plaidait chaudement la cause des amis de l'Évangile. Il détestait l'orgueil des prêtres. La hardiesse avec laquelle il mettait en avant les idées ultramontaines, plaçait un autre pouvoir, celui du pape, au-dessus du sien, attaquait ses idées dans les conversations, dans les pamphlets et jusque dans la chair. Leur caractère remuant, leur confiance présomptueuse dans le triomphe de leur cause, tout cela irritait ce prince, le plus susceptible qui exista jamais. Et il était charmé de voir un homme tel que Berquin humilier les vanteries des clercs. Toutefois, il put bien y avoir dans le roi quelques motifs plus élevés. Il voyait l'esprit humain déployer dans tous les sens une activité nouvelle. Le monde littéraire, le monde philosophique, le monde politique, le monde religieux, toutes les sociétés subissaient dans la première moitié du XVIe siècle d'importantes transformations. Or, François Ier eut peut-être quelquefois un sentiment confus qu'au milieu de tous ces mouvements divers, il y en avait un qui était le mouvement principal, le fait dominant, le principe générateur et, si je puis dire, le fiat lux de la création nouvelle. Il vit que la réformation était la grande force qui agissait alors dans le monde, que toutes les autres lui étaient subordonnées, que c'était à elle qu'appartenait, suivant un antique oracle, l'assemblée des peuples, et dans ces moments où son œil était clair, il voulait s'associer à ce pouvoir invisible qui faisait plus que tous les autres pouvoirs. Malheureusement, ses passions troublaient bientôt sa vue et, après avoir entrevu le jour, il se plongeait de nouveau dans la nuit. Quant à Duprat, il n'avait pas d'hésitation. Il se mettait résolument du côté des ténèbres. Son ambition, son avidité l'y poussait. Il était toujours avec les ultramontains. La lutte allait donc s'engager entre les meilleures aspirations du roi et les complots de la cour de Rome. Il était difficile de dire à laquelle de ces deux puissances le triomphe appartiendrait. Le chancelier cardinal, toutefois, n'en doutait pas. Il combina l'attaque avec habileté et crut avoir trouvé un moyen, vil sans doute, mais sûr d'opprimer la réforme. Le roi devait pourvoir aux charges considérables que le traité de Madrid lui imposait, et il n'avait rien. Il s'adressa au clergé. « Bon, dirent les clercs, profitons de l'occasion qui nous est offerte. » Ils promirent 1 300 000 livres, mais demandèrent en échange, d'après les suggestions de Duprat, que sa majesté extirpât la damnable et insupportable secte luthérienne qui, depuis quelque temps, était latissement entrée dans le royaume. Le roi, ayant besoin d'argent, devait être prêt à tout accorder pour remplir ses coffres. Il semblait donc que ça n'était fait non seulement de Berquin, mais de toute la réforme. Marguerite, alors à Fontainebleau avec le roi de Navarre, apprit la demande faite au roi par le clergé et trembla que François ne livrât ses amis aux persécutions du cardinal. Elle chercha aussitôt à exercer sur son frère cette influence à laquelle il cédait alors facilement. Elle réussit. Le roi, tout en mettant dans ses coffres la contribution du clergé, n'ordonna point l'extirpation de l'hérésie luthérienne. Cependant, Marguerite n'était point rassurée. Elle ressentait de vives angoisses à la pensée du danger que courait l'Évangile. « Vrai Dieu du ciel, réconforte mon âme », disait-elle dans l'une de ses poésies. Elle fut en effet réconfortée. Le vieux Lefèvre, qui traduisait alors la Bible et les homélies de Chrysostome sur les actes des apôtres, et qui faisait apprendre par cœur les psaumes de David à son jeune élève, le duc d'Angoulême, ranima son feu et de sa voix éteinte l'affermit dans la foi. « Ne craignez pas, disait-il, l'élection de Dieu est très puissante. Prions en foi, disait Roussel, le tout est que la foi accompagne notre prière. » Les amis de Strasbourg demandèrent à Luther de la fortifier par quelques bonnes épîtres. Érasme, apprenant les dangers que l'Évangile courait, fut ému et de cette même plume avec laquelle il avait découragé Berquin. « Ô reine, écrivit-il, reine encore plus illustre par la pureté de vos mœurs que par l'éclat de votre race et de votre couronne, ne craignez point. Celui qui fait tourner toute chose au bien de ceux qu'il aime, sait ce qui nous est bon, et quand il le jugera convenable, il donnera subitement à nos affaires une heureuse issue. C'est quand la raison humaine désespère de tout, que la sagesse impénétrable de Dieu se manifeste dans toute sa gloire. Il ne peut rien arriver que d'heureux à celui qui a fixé en Dieu l'encre de son espérance. Remettons donc tout en ses mains. Mais que fais-je? Ah, je sais, madame, qu'il n'est pas nécessaire de vous exciter par de puissants aiguillons, et que nous devons plutôt vous rendre grâce de ce que vous protégez contre la malice des méchants, les bonnes lettres et tous ceux qui aiment sincèrement Jésus-Christ. » L'état dans lequel la reine se trouvait vint bientôt donner un nouveau cours à ses pensées. Elle attendait une fille et en parlait souvent dans ses lettres. Cette fille devait en effet lui être donnée et même devenir la plus forte des femmes de son siècle. Calme, un peu triste, Marguerite, qui se trouvait seule à cette époque dans la magnifique demeure de Fontainebleau, y cherchait quelques distractions, jouissait des beautés de la nature qui l'entourait et se promenait chaque jour dans le parc et dans la forêt. « Ma grossesse, écrit-elle le 27 septembre 1527, ne m'empêche pas de visiter deux fois le jour ces jardins où je me trouve merveilleusement à mon aise. » Elle marchait lentement, elle pensait à la naissance de son enfant, elle admirait la lumière du soleil, puis revenant à ce qui tenait la première place dans son cœur, elle se rappelait le vrai soleil, Jésus-Christ, se désolait de ne pas voir ses rayons éclairer toute la France et s'écriait « Las, il est temps que cette obscure nue, où tu tiens, tu veuilles rompre et fendre, tous bons esprits te voyant retenu, en gémissant désir ta venue, que longuement tu fais si bas attendre. Oh là, viens, viens, Seigneur Jésus, descendre, illuminant notre ténèbre obscure, fais-nous bien voir notre rien, notre cendre, et ta bonté qui de rien prend la cure. » Il semble que le séjour de Marguerite près du roi arrêtait les persécuteurs, mais elle dut bientôt leur laisser le champ libre, le moment de ses couches approchait. Le roi Henri d'Albret n'avait point été en Béarn depuis son mariage. Peut-être désirait-il que sa fille naquît dans le château de Pau. Le roi et la reine de Navarre partirent donc en octobre 1527 pour leur possession des Pyrénées. Deux mois plus tard, le 7 janvier, Jeanne d'Albret naquit. C'est à tort qu'on l'a fait naître à Fontainebleau ou à Blois. À peine la reine de Navarre était-elle partie pour le Béarn que Duprat et la Sorbonne avaient cherché à réaliser leur cruel dessein. Au nombre des gentilshommes de Jean Stuart, duc d'Albany, se trouvait un seigneur du Poitou nommé de la Tour. Le duc d'Albany, membre de la famille royale d'Écosse, avait été régent de ce royaume et de la Tour avait habité avec lui à Édimbourg. Il y avait profité de son temps quand le seigneur duc était régent d'Écosse, disait-on. Le sieur de la Tour y a semé plusieurs erreurs luthériennes. Ce gentilhomme français aurait donc été l'un des premiers réformateurs de l'Écosse. Il ne montrait pas moins de zèle à Paris qu'à Édimbourg, ce qui déplaisait fort aux prêtres. De plus, le duc d'Albany, en faveur auprès du roi, déplaisait lui-même à l'ambitieux chancelier. Un procès fut instruit. François Ier, qui n'avait plus près de lui son bon génie, ferma les yeux. Le sieur de la Tour et son serviteur, évangélique comme lui, furent condamnés par le Parlement pour cause d'hérésie. Puis, le 27 octobre 1527, ces deux pieux chrétiens furent liés sur la même charrette et lentement conduits au marché aux pourceaux pour y être brûlés. La charrette s'étant arrêtée, « Ça, dirent les bourreaux aux serviteurs, descendent de là !» Le dit serviteur descendit et se tint debout derrière le véhicule. On le dépouilla de ses habits, on le battit de verges en présence de son maître et tant et si fort on le frappa que le pauvre valet déclara se repentir. En conséquence, on en agit miséricordieusement avec lui, se contentant de lui couper la langue. On espérait ainsi ébranler de la Tour. Mais celui-ci, vivement ému, leva ses regards au ciel, promit à Dieu de lui rester fidèle, et aussitôt une joie ineffable remplaça l'angoisse qui l'avait agité. Il fut brûlé vif. Marguerite dut apprendre à Pau la mort du pieux de la Tour. Quoi qu'il en soit, elle partit pour Paris peu après ses couches, en donnant à ses gens l'ordre de se hâter. Qu'est-ce qui l'a rappelé si promptement dans la capitale? Était-ce la nouvelle de quelque danger qui menaçait l'Évangile? Un concile était sur le point de se réunir à Paris. Désirait-elle être à portée de détourner les coups qu'il porterait à ses amis? C'est la raison que donne un historien. Elle était délibérée de faire diligence, et à peine relevée de ses couches, cette princesse d'une constitution faible traversait les sables et les marais des Landes, violemment cahotée et pressant son courrier d'avancer. Elle se plaint des mauvais chemins dans une lettre écrite de Barbezieux. « Je ne saurais rien trouver difficile, dit-elle, ni faire journée qui me puisse travailler. J'espère être en 10 jours à Blois. » Il était temps. La mort de la Tour n'avait satisfait ni le chancelier ni la Sorbonne. Ils voulaient l'extirpation de l'hérésie, et non pas seulement la mort d'un hérétique. Ne l'ayant pas obtenue au moyen de l'impôt du clergé, ils étaient décidés à la chercher d'une autre manière. Duprat écoutait les rapports, prenait note de ce qu'il apercevait dans les rues. Rien ne l'irritait comme de voir des laïcs, même des femmes, passer en détournant la tête devant les portiques des églises, se glisser dans des rues solitaires, se réunir dans des caves ou des greniers, où des individus qui n'avaient pas reçu les ordres sacrés priaient à haute voix et lisaient les saintes écritures. N'avait-il pas en 1516 abrogé la pragmatique sanction et dépouillé l'église gallicane de sa liberté? Ne parviendrait-il donc pas, avec bien moins de peine à immoler cette nouvelle église libre, un pauvre et méprisable troupeau? Un concile provincial devant se tenir à Paris, Duprat résolut d'en profiter pour frapper les grands coups. Le 28 février 1528, le concile s'étant ouvert, le cardinal archevêque s'y rendit avec pompe, puis se leva et dit au milieu d'un grand silence « Messieurs, une peste terrible, suscitée par Martin Luther, a détruit la foi orthodoxe. Une tempête s'est déchaînée sur la nacelle de Saint-Pierre, qui, ballottée par les vents, est menacée d'un affreux naufrage. Luther ne diffère pas de Maniquée, et pourtant, ô révérend père, ses adhérents se multiplient dans notre province, et ils tiennent, en beaucoup de lieux, des conventicules secrets. Ils se réunissent avec des laïcs dans les parties privées les plus retirées des maisons. Ils discutent la foi catholique avec des femmes et des ignorants. » On le voit, ce n'était pas proprement l'hérésie que le chancelier reprochait à la Réformation, c'était la liberté. Une religion qui n'était pas exclusivement dans la main des prêtres était à ses yeux plus alarmante que l'hérésie. Si l'on tolérait de telles coutumes, ne verrait-on pas un jour des gentilshommes, des bourgeois et même des gens sortis des rangs du peuple prétendre avoir quelque chose à dire dans les affaires de l'État? Les libertés constitutionnelles des temps modernes se trouvaient en germe dans la Réforme. Le Premier ministre ne s'y trompa pas. Il voulait du même coup trancher la tête et à la liberté religieuse et à la liberté politique. Il trouva dans les prêtres assemblés à Paris des complices enthousiastes. le concile rendit un décret par lequel il ordonna aux évêques et même à tous les habitants des diocèses de dénoncer tous les luthériens de leur connaissance. Le roi confirmerait-il ce décret ? Duprat était inquiet. Il recueillit ses pensées, arrangea ses arguments et se rendit au palais avec l'espoir d'entraîner son maître. « Sire, lui dit-il, Dieu pourrait, sans votre secours, exterminer toute cette cohorte hérétique. Mais dans sa grande bonté, il daigne appeler les hommes à son aide. Qui pourrait raconter la gloire et la félicité de tant de princes qui, dans les siècles passés, ont traité les hérétiques comme les grands ennemis de leur couronne et les ont livrés à la mort ? Si vous voulez obtenir le salut, si vous voulez conserver intacts vos droits souverains, si vous voulez contenir dans la tranquillité les nations qui vous ont soumises, sire, défendez virilement la foi catholique et domptez par les armes tous ses ennemis. » Ainsi parla Duprat. Mais François Ier se disait que si ses droits souverains étaient menacés, ce pouvait bien être par la puissance de Rome. Il fit encore le sourd. « Allons plus loin, dit le cardinal à sa chancellerie. Faisons demander l'extirpation de l'hérésie par l'Église tout entière. » Des conciles s'assemblèrent à Lyon, à Rouen, à Tours, à Reims, à Bourges, et l'on se gêna moins encore dans les provinces que dans la capitale. « Ces hérétiques, dirent de fougueux orateurs, invoquent le diable et le font comparaître au moyen de certaines herbes ou de certains caractères. Ils sont des devins, des enchanteurs, des sacrilèges. Mais tout fut inutile. François Ier se faisait un plaisir de résister aux prêtres et Duprat rencontra bientôt un obstacle non moins puissant. Si les curés devaient dénoncer les enchanteurs, c'était le Parlement qui devait les condamner. Or, le Parlement et le chancelier étaient brouillés. Quand Duprat, alors laïque et premier président du Parlement, avait vu mourir sa femme, il avait calculé que cette perte pouvait être un gain et s'était fait prêtre afin de s'emparer des plus riches bénéfices du royaume. D'abord, il avait mis la main sur l'archevêché de Sens, quoique dans l'élection, il y eut 22 voix contre lui et pour lui une seule. Peu après, il s'était emparé de la riche abbaye de Saint-Benoît. « C'est à nous seuls, avaient dit les moines, qu'appartient le choix de notre abbé. » Et ils avaient courageusement refusé de reconnaître le chancelier. Duprat, pour toute réponse, les fit mettre sous les verrous. Le Parlement, indigné, envoya son huissier aux officiers de l'archevêque et les assigna à comparaître. Ceux-ci sautèrent sur le messager et le rouèrent tellement de coups qu'il en mourut. Le roi donna gain de cause à son premier ministre et la discorde, entre le chancelier et le Parlement, devint encore plus vive. Duprat, qui désirait se réconcilier avec cette cour, dont l'influence lui était souvent nécessaire, s'imagina de la gagner au moyen de l'hérésie luthérienne qu'ils détestaient l'un et l'autre également. Le Parlement ne demandait pas mieux de son côté que de retrouver la faveur du premier ministre. Ses intrigues réussirent. Le chancelier et les conseillers se livrèrent les uns aux autres la vérité, qu'ils estimaient n'être qu'un rien comme qui jetterait une croûte de pain à un chien, selon l'expression d'un réformateur. Il eut alors une grande joie dans les sacristies et dans les couvents. En effet, le chancelier, la Sorbonne et le Parlement étaient d'accord. Il semblait impossible que la réformation ne succombât pas sous leurs attaques combinées. « Il nous faut, se disaient-ils les uns aux autres, arracher toutes les mauvaises herbes. » Mais ils ne demandaient pas pour autant que l'action s'accomplît en un seul jour. « Si seulement le roi nous accorde quelques petites poursuites isolées, disaient les ennemis de la Réformation, nous engrainerons l'affaire de telle manière que tout le blé finira par tomber entre les meules. » Cela même, ils ne pouvaient l'obtenir du roi. Les terribles meules étaient oisives et inutiles. L'agitation du clergé n'était aux yeux de François Ier que criaillerie de moines. Il voulait protéger les lettres contre les attaques des ultramontains. Il sentait d'ailleurs que le plus grand danger qui menaçait son autorité était la puissance théocratique et craignait toujours plus les prêtres, si remuants et si criards. La Réformation semblait sauvée quand une circonstance funeste, inattendue, vint la livrer à ses ennemis.